Bonjour à tout le monde et bonjour surtout à Pierre Judet de la Combe. Merci de venir ce soir.
C'est moi qui vous remercie.
Alors donc, on est ravis de vous voir et de vous entendre pour la parution du deuxième tome du livre, du gros livre, « Quand les dieux rôdaient sur la terre ». Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous dire quelques mots de présentation. Vous êtes à la base agrégé de grammaire. Directeur de recherche désormais émérite à l'EHESS. Alors, on peut dire, sans vous envoyer trop de fleurs, que vous êtes maître incontesté de l'étude de la tragédie grecque, mais aussi d'Homère. Vous avez réalisé une biographie en 2017, et vous avez, chez Gallimard, et vous avez donné en 2019 une nouvelle traduction de l'Iliade dans le volumineux Tout Homère, dirigé par Hélène Monsacré. Alors, en lien probablement avec cette traduction et l'arrière-plan tragique, depuis 4 ans, vous êtes tous les samedis sur France Inter pour donc cette émission « Quand les dieux rôdaient sur la terre ». Le premier tome a été, si je puis dire, on est passé de l'oral à l'écrit il y a 2 ans, et puis donc aujourd'hui le tome 2. Alors, ces ouvrages traitent de la poésie, du théâtre, de la mythologie et de l'histoire des Grecs. Le tome 1, c'était essentiellement sur les dieux. Et le tome 2, ce sont sur les héros. Héraclès, Achille, Iphigénie, Andromaque et d'autres encore. Vous avez bénéficié, enfin, vous utilisez cette oralité pour utiliser des jeux de mots qui sont extrêmement rafraîchissants. Comme par exemple, j'ai noté le 24 mai 2025, vous avez parlé des aventures de Lady Gaïa. Ou le 22 février de la même année, « Make Athens Great Again ». Voilà, donc, dès la page 43, par exemple, on en a un qui est absolument 46, pardon, remarquable, à propos de l'accouchement retardé d'Héraclès. Qu'est-ce qu'on lit ? Hercule Poirot. Voilà, donc, je veux dire, ça donne un ton, mais c'est vrai que ça permet aussi, de lire et d'écouter avec, un très grand plaisir. Alors, la première question technique que je voudrais vous poser, c'est comment êtes-vous passé de l'oral à l'écrit ?
Ouh là là, oui, donc c'est... C'est-à-dire que pour les émissions donc, qui avaient lieu toutes les semaines, il fallait écrire. Alors, pendant 3 ans, c'était écrire pour une heure d'émission, c'est-à-dire en fait 45 minutes, et la dernière année, c'était un peu plus court quand même. Donc il fallait écrire. Il fallait écrire en même temps en te disant que ça serait oral et que dans un texte oral, enfin ce qui s'est dit à la radio, il ne peut pas y avoir de mystère plus d'une demi-seconde, une 2 secondes. Si on donne un nom propre, il faut tout de suite dire qui c'est. Bon, il faut articuler le nom et il faut répéter beaucoup pour qu'il n'y ait pas que le fil ne soit jamais rompu quand on sait que les auditeurs et les auditrices vont rompre le fil, ils ne vont pas être toujours collés au poste. Et donc, heureusement, donc, il y a la co-autrice de ce livre, de celui qui va suivre, donc Christiane Donati, qui est ici présente et qui, elle, écoute France Inter depuis qu'elle a 5 ans. Donc, ça fait quelques années, quoi, je veux dire. Et moi, je lui lisais les versions écrites. Et elle me disait, mais ça, c'est trop écrit. Là, tu penses trop à tes collègues. Parce que c'est vrai, parfois, quand j'affirmais une chose sur Prométhée, je pouvais me dire « Ah, je suis en train de faire la nique à un tel, et donc, mais ça n'intéresse personne, en réalité. » Bon, et lui, il ne va pas écouter, de manière. Donc, il fallait faire quelque chose de direct. Et ça, elle m'a énormément aidé, donc, à ne pas faire le philologue, ce que je suis jusqu'à la moelle. Quoi. Je me sens vraiment philologue. C'est-à-dire, je m'intéresse aux textes, à ce que les textes sont de particuliers, de difficiles, ce qu'ils nous disent d'extraordinaire, quoi. Donc, l'oral était très écrit. Et après, quand on a voulu faire des livres de ça, il a fallu le changer un peu, enlever de l'oralité. Alors là, je dois dire que j'ai dû me battre contre des éditeurs qui voulaient enlever les jeux de mots. J'étais très fier de dire que comme Castor et Pollux sont nés d'un cygne et de l'État, et que donc ils ont été peut-être des œufs dans certaines versions, j'ai dit que c'était les pondus et pondus de l'Antiquité. Et bon, ça sautait. Bon, donc j'ai remis dans un autre volume, quoi. Bon, etc. Parce que, donc, Donc là, il fallait que, quand même qu'il garde, qu'il y ait quelque chose encore de l'oralité, du côté familier, du rire. Parce que ça, c'est une chose que j'ai découverte en travaillant, parce que j'ai appris énormément. C'est que dans le mythe, en Grèce, mais pas seulement, il y a beaucoup de rire. C'est-à-dire que comme on parle des dieux qui sont terrifiants, bien, il faut pouvoir en parler, donc dire qui ils sont, raconter leurs histoires, sans se faire complètement prendre, happé par les dieux. Et donc rien que le fait d'en parler avec du langage, c'est une forme de distance. Et le rire n'est pas, pour un grec, n'est pas du tout, comment dire, une manière de ridiculiser les dieux. Les dieux s'en chargent eux-mêmes. Mais c'est une manière de dire, je reconnais votre puissance, mais attention, hein, moi je suis pas, vous êtes trop comme nous. Donc, je ne peux pas vous ignorer, mais vous devez, comment dire, je vous tiens à carreau un peu. Et donc, je suis assez libre par rapport à vous. Ça, ça explique le ton des émissions. Ce n'est pas seulement que je suis un lecteur acharné de Sant'Antonio, mais je veux dire, qui est peut-être un peu passé maintenant. Hein. Mais je veux dire, voilà. Donc passer à l'écrit, écrit, ça a été une forme, ça allait enlever donc, ce que l'oralité... du fait qu'on parle à des gens d'abord bon, qui ne suivent pas tout le temps parce qu'ils font autre chose, quoi. Tandis qu'un lecteur, on suppose qu'il est là, bien assis, qu'il va rester.
Oui, en effet, en principe, il y a plus de peut-être de concentration dans la lecture que dans l'écoute. Alors, venons-en maintenant donc à ces personnages absolument fascinants. Et le premier dont on pourrait parler, c'est Héraclès. Vous faites plusieurs chapitres sur Héraclès, ce qui prouve à quel point sa personnalité est complexe. Comment, après avoir écrit ce livre, comment voyez-vous cette complexité d'Héraclès? Comment voyez-vous Héraclès, tout simplement?
Alors, Héraclès, ouais, c'est pas celui qui est le plus sympathique, je trouve. Donc, mais bon. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est hyper présent. Les Grecs n'arrêtaient pas de dire par Héraclès, comme ça il était présent dans les cultes, dans les images, dans la vie quotidienne. Mais aucun grand poète n'a écrit toute l'histoire d'Héraclès, contrairement à ce qui s'est passé pour Achille, ce qui s'est passé pour Ulysse, ce qui s'est passé aussi pour Œdipe, même si on a perdu les épopées qui en parlaient, on n'a que des fragments. Pour Héraclès, ce sont que des bouts, ce sont des images, les 12 travaux. On n'a aucun texte qui raconte les 12 travaux. C'est-à-dire qu'on a, c'est éclaté. Donc on a, par exemple, pour avoir une histoire complète d'Héraclès, il faut attendre des savants, non pas les poètes, pas les gens qui racontaient dans des cérémonies donc de cultuelles, mais des érudits qui ont fait la somme de tout ce qu'on peut dire sur Héraclès. Et là, on a les 12 travaux. Sinon, on les a jamais. On a, par exemple, le premier travail de « Aller tuer le lion de Némée », il se trouve qu'on a un poème... mais qui est tardif, du 3e siècle avant, enfin, pour nous, c'est tardif, c'est un poème alexandrin qui est extraordinaire. On ne sait pas de qui, d'ailleurs. Enfin, peut-être Théocrite. C'est très, très beau. Mais on n'a pas des poèmes sur tout. Donc, alors que cette figure fascinée. Et pour moi, Héraclès, c'est vraiment l'homme, à la fois homme et dieu, mais d'abord homme, vrai plus que double, c'est-à-dire qu'il n'a pas aucune identité, parce que il est né de Zeus et qui était séduit par une femme magnifique, Alcmène, et pour séduire cette femme, il a pris l'apparence du mari. Il est rentré un peu plus tôt que prévu, et là, il a arrêté le soleil pendant pas mal de temps, donc il a pu avoir une très longue nuit d'amour fabuleuse et né Héraclès. Mais donc Héraclès n'a pas... On ne sait pas qui est son père. Il ne sait jamais qui est son père. Ça peut être Zeus ou ça peut être le père humain. Et donc, ce qui est frappant, c'est que c'est le héros limite. Il est vraiment Blade Runner. C'est-à-dire qu'il est sur le fil d'un rasoir. Et il est entre le divin et l'humain, plus qu'humain. Bon, c'est vrai que c'est un surmâle. Il n'y a pas de gens trop... Il n'y a pas d'enfants ici, mais... Donc un jour, il arrive chez un roi qui a un lion chez lui qui dévaste toute sa contrée. Donc Héraclès arrive, c'est son premier exploit. C'est un des travaux. Et le père veut lui donner, qui avait 50 filles, veut qu'il épouse une fille à tout prix. Donc il couche avec les 50. Lui, il pense qu'il a couché toujours avec la même. Je veux dire, et donc ça a donné ensuite des petits fils d'Héraclès, en Sardaigne notamment, comme ça, il a peuplé le monde. Et donc, il est, c'est le surmâle. En même temps, il a dû passer un an en travesti. Parce que, comme donc il avait fait un crime, il a dû payer ce crime en allant chez la reine Omphale. Alors là, c'est magnifique, lui s'habille en femme avec les attributs d'Omphale, et Omphale avait la peau du lion de Némée et la massue. Et de temps en temps, il allait casser la figure des brigands qui venaient embêter cette, enfin, qui rôdaient dans le royaume de cette femme. Et donc, il reprenait ses attributs hyper viril de casseur de brigands, et il revenait ensuite servir cette femme pendant, en tant que femme. Et donc, c'est comme ça, comme Achille aussi a lui-même été travesti. Donc, ça, c'est ça, souvent ça, dans les sociétés hyper machistes, il faut que les hommes sachent ce que c'est qu'être femme. Pour ça, ils doivent être femmes aussi. Donc, c'est pas simplement la domination. Et je veux dire, Héraclès, ce qui est frappant, c'est que c'est à la fois, c'est celui qui va civiliser le monde en allant partout. Donc, il va de l'est, de l'extrême nord à l'extrême est, à l'extrême ouest. Il va même dans les enfers, mais par exemple, ça c'est passionnant, ça ne sert à rien. Il va prendre le chien Cerbère, parce que c'est un des travaux, de prendre le chien qui a 3 têtes ou 50, ça dépend des versions, qui garde des enfers, ce qui fait qu'on ne peut pas en sortir. Lui, il ramène le chien. Il le ramène à son commanditaire humain, qui peut rien faire du chien des enfers. Donc ensuite, il le renvoie, il le rend au dieu des enfers. Et lui-même sera dans les enfers, et ça, c'est magnifique. Le texte là, d'Homère est tout à fait stupéfiant. Il y a un Héraclès dans les enfers qui est très triste, qui continue avec son arc de menacer tout le monde. Tous ceux qu'il a déjà tués, il veut les tuer encore. Et on dit que lui-même, c'est-à-dire son âme, ou plutôt, non, je me trompe, c'est son corps, lui-même Héraclès, alors que son âme végète dans les enfers, lui-même, il est sur l'Olympe, il est devenu dieu, et il épouse la fille jeunesse, la fille de Zeus et de sa grande ennemie Héra. Donc c'est celui qui est à la limite de tout, de toute chose. Et ça, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire que c'est pas comme Ulysse qui lui aussi va parcourir le monde, mais avec une seule idée, c'est de s'en sortir. Héraclès, il a pas de chez soi. Il avait une famille qu'il a créée, mais comme Héra et donc puisqu'il n'est pas le fils, Héra, la femme de Zeus, est jalouse de la naissance d'Héraclès, évidemment. Eh bien, donc Héra lui met de la folie en tête, et Héraclès devient fou, délire et assassine ses enfants et sa femme. Donc, il est de nulle part. Donc, il peut être homme, il peut être femme, etc. Il est de nulle part, c'est-à-dire que comme un atome qui circule, alors qui est une brute quand même, et il fait que le monde est vivable, mais pour lui, ça, c'est vraiment une pensée très profonde. Lui qui va civiliser le monde, il n'est pas civilisé. Il n'est pas fixé. Et donc, à la fin, il va être à la fois Dieu. Donc, c'est un des dieux les plus aimés des Grecs, parce qu'un ancien homme, ancien humain. Et en même temps, pendant qu'il est Dieu dans l'Olympe, où il ne fait rien, d'ailleurs, il mange, hein, parce qu'il adore ça, et il n'a pas de grands exploits connus. Et son âme végète dans les enfers, triste, et il essaie de tuer tous les êtres qu'il a déjà tués une fois.
Oui, alors, Héraclès, le nom d'Héraclès même, qui signifie la gloire d'Héra, est quand même assez ambigu, puisque, en fait, Héra le déteste, comme étant le fruit des amours adultérins, des nombreux amours adultérins de Zeus.
Ben, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc, Héra... Zeus se dit, je vais avoir un fils et il va régner sur Argos, donc sur la zone. Et parce que c'est, il dit, je vais avoir un fils, c'est plutôt quelqu'un de mon sang qui va naître bientôt, va être roi. Et Héra n'a aucune envie que ce soit cet Héraclès. Donc elle trouve qu'il y a une femme enceinte qui donc dont un ancêtre a été donc vient de Zeus. Donc c'est le sang de Zeus. Elle fait accélérer l'accouchement de cette femme. Et retarder l'accouchement de la mère d'Héraclès. C'est pour ça que Hercule poireaute. Bon, et donc celui qui est né avant a le pouvoir et a le pouvoir d'obliger Héraclès à faire ses 12 travaux. Et donc Héra, elle est contre Héraclès. Mais alors tout le paradoxe, c'est que Héraclès, Clès, c'est la gloire. Ça veut dire celui qui est la gloire d'Héra, ou si on veut celui qui notre sens, qui est glorieux par Héra. Et ce qui est vrai. Donc, il a fait la gloire d'Héra. qui est donc est magnifié par le fait que ce type a dû faire tout ça, et lui-même il est glorieux parce que c'est Hera qui lui a fait tout ça. Bon, c'est Hera qui fait naître l'hydre de Lerne, enfin, etc., etc. Donc il doit affronter. Donc il est vraiment, c'est pour moi l'ambiguïté, mais c'est pas un caractère ambigu comme Achille ou comme Ulysse. Bon, ça on pourra en parler. C'est il est dans la contradiction, il est la lisière de l'humain et du divin. Il est les deux et on ne peut pas être les deux. C'est une chose, c'est contradictoire, quoi. Donc et donc il est à la lisière de tout, du sauvage et du civilisé, de l'homme et de la femme, etc., etc.
Alors Héraclès est un des absents quand même de chez Homère.
Alors Héraclès, oui, parce que c'est une génération d'avant Achille, Agamemnon, Ulysse, tout ça. Il a déjà pris Troie sans problème. Il n'a pas fallu 10 ans, comme ça il est arrivé. Il a crié un peu fort, donc il a pu prendre Troie, tout ça. Il a quand même les Amazones. Donc il est allé se battre pour gagner une ceinture, en fait, une espèce de baudrier d'une Amazone, donc il en a épousé une, donc c'est pour lui, c'est tout ça se fait très très vite en réalité. Donc comme aller dans les enfers, aller prendre les pommes des Hespérides, ce sont des pommes d'or, donc qui sont à l'extrême ouest dans un pays du couchant, qui sont gardées par un dragon, enfin par un serpent. Ça aussi il les ramène. Et ces pommes d'or, c'est dans ce jardin-là que Zeus et Hera ont eu leur première nuit d'amour, dit-on. Mais lui, il ramène ses pommes, et ses pommes, ça nourrit les dieux en immortalité. Il rapporte ça chez les humains. Ça sert à rien. Faut les rendre. Donc, c'est vraiment comme s'il traverse les frontières pour rien, mais d'une certaine manière, il établit ce que la terre, que l'homme peut habiter.
Alors, venons-en maintenant à la deuxième partie, si vous voulez, de votre ouvrage, où Homère et les héros homériques prennent le dessus, en quelque sorte. Alors, comme vous signalez à juste titre que le premier vers du livre 1 débute par la colère d'Achille et que le dernier vers du dernier livre se termine par les funérailles d'Hector. Oui. Alors, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Comment peut-on voir ces héros qui se meuvent dans cette Iliade extraordinairement complexe? Si on peut commencer par Achille éventuellement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les professions, alors moi je crois beaucoup aux professions que l'on a. Moi j'ai dit, je suis philologue, donc vous êtes philologue, mais aussi historien. D'autres se disent, je suis anthropologue de l'Antiquité ou je suis linguiste, etc. Et selon les professions que l'on a, et ça c'est très sain, on ne voit pas les mêmes choses, le même texte de la même manière. Et ça, c'est plus que ça. On pourrait le regretter en disant, mais vous, là, les scientifiques, on vous paye, bon, plus ou moins, donc mettez-vous d'accord qu'il faut qu'il y ait un consensus. Eh bien non, c'est que notre travail est fait de dissensions, de fait de désaccords. C'est qu'un historien aura tendance à dire, voilà, mais le Homère, ça parle de quel monde, de quelle réalité? Alors là, il y a des débats entre historiens qui sont assez féroces. Il y a eu des débats entre les hellénistes littéraires, les philologues, comme on dit. C'est la fameuse question homérique. Homère, est-ce que c'est un auteur ou est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est une myriade, une pluralité d'auteurs? Est-ce que c'est une tradition qui bouge tout le temps, etc.? Or, ce que vous venez de dire, c'est dire le premier vers de l'Iliade, c'est le nom d'Achille. Le dernier vers de l'Iliade, c'est le nom d'Hector, c'est-à-dire les deux grands ennemis. C'est-à-dire que le grand exploit d'Achille, toute l'histoire de l'Iliade, c'est Zeus qui se demande comment je peux abattre Hector, qui est le défenseur de Troie, qui est l'être humain que je préfère. Parce que Hector, c'est l'homme pieux par excellence. Il fait des sacrifices pour Zeus dans la ville de Troie, qui est une ville hyper riche, comme une espèce d'âge d'or, des sacrifices très abondants. Donc là, beaucoup de dieux, dont Zeus chérissent Troie. Alors, il y a les deux déesses qui n'aiment pas du tout Troie, c'est Athéna et Héra, pour la simple raison que Paris, lors du jugement de Paris, que vous fallait savoir quelle est la déesse la plus belle, Aphrodite ou Vénus, Héra, la femme de Zeus, ou Athéna, il a choisi Aphrodite. Parce qu'Aphrodite lui a dit, tu vas épouser la plus belle femme du monde. Donc, évidemment, il a cédé à ce moment-là. Et donc, mais au départ, Héra n'avait rien de spécialement pro-grec, plutôt qu'on... Non, c'est que c'est à cause du jugement de Paris que Héra et Athéna ont voulu à tout prix la chute de Troie. Et donc, on est devant un truc enfin, extraordinairement complexe, en réalité, avec un poème. Et on peut se demander, donc d'abord, on a plein de questions, mais comment s'est fait ce poème ? Et moi, j'ai appris, en travaillant beaucoup avec des gens qui disent, des linguistes, qui disent que c'est de la poésie orale, improvisée, et on a des exemples dans le monde encore maintenant. Donc là, c'était notamment... Et ben oui, par exemple, le livre qui, moi, pour moi, est le livre le meilleur sur la poésie orale épique, telle qu'on la trouve chez Homère, c'est un livre de Ismaël Kadare, l'immense écrivain albanais qui est mort maintenant. Et il a fait un livre qui s'appelle « Le dossier H », « Le dossier Homère ». Il imagine deux Américains qui, en fait, ont existé, mais il les a un peu transposés, qui se disent « On va étudier les poésies orales qui se font maintenant alors en Albanie, parce que Kadare est en Albanie. » Et donc, on va aller enregistrer, parce qu'on venait de créer les magnétophones, donc on va enregistrer et on va percer le secret d'Homère en enregistrant ces textes. Ces poèmes récités par des gens donc qu'on appelle les gousselards. Et donc, Kadare raconte ça. C'est absolument prodigieux. Voilà, c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais lus qui parle de toutes ces questions. Et en fait, ce sont deux Américains qui ont existé dans les années 30. Et ils ont fait ces enquêtes, mais pas en Albanie, mais en Bosnie. Bon, ça, c'est autre chose. Et donc, quand on s'intéresse à ces poésies-là, orales, on voit que, bon, oui, on reconnaît beaucoup de choses qui sont dans Homère. Alors, pour revenir à votre question, je ne veux pas parler de la question homérique, on se dit, on a cette poésie qui devait charmer les gens et charmer les dieux aussi, parce que c'est toujours récité dans des rituels. Donc, on ne récite pas Homère comme ça dans sa chambre. On le récite pour pour plaire aux dieux et pour créer une atmosphère religieuse entre les gens qui écoutent. Et là, le poète a intérêt à être extrêmement bon parce que ce sont des histoires très connues. Alors ces héros, donc Hector, Achille, ça c'est passionnant parce que ce sont d'abord des noms propres. D'abord Hector, qui est le fils de Priam, le fils préféré de Priam, c'est le grand défenseur de Troie. C'est celui qui sait le mieux tenir sa ville. Or, tenir en grec, ça se dit ekein, c'est le verbe avoir, et Hector, c'est celui dont la spécialité, la profession, c'est de bien tenir Troie. Ekein, Hector. Tor, c'est comme facteur, c'est comme les noms d'agents qu'on dit. Et donc, on sait que si Hector meurt, Troie est fichue. Donc, effectivement, toute l'Iliade converge vers la mort d'Hector. Et ça, c'est le dernier vers. Et Troie va tomber. Mais pour qu'elle tombe vraiment, il faudra un autre héros, Ulysse. C'est la rue, c'est le cheval de Troie, c'est le massacre. Enfin, c'est épouvantable, quoi. Et Achille, alors, donc les Grecs avaient plusieurs interprétations. Alors, d'abord, c'est. Qui sont plus ou moins amusantes, mais on voit que Achille, dans Achilleus, on a le nom des Achéens. Pas par étymologie scientifique, on dirait, mais par association qui, pour les Grecs, faisait sens. Donc, c'est celui qui est, le meilleur des Achéens. C'est aussi Achilleus, c'est Akos, le chagrin, le deuil. Et Léus, ça rappelle Laos, qu'on a dans laïque, le mot laïque, laïcité, enfin bon, il n'était pas très laïque. Hein. C'est le peuple en armes. C'est le peuple, donc c'est celui qui est le akos, qui est le chagrin, le deuil du peuple en armes, et c'est-à-dire de son propre peuple et des Grecs. Et l'Iliade joue avec ce sens. Et effectivement, en se mettant en colère, en refusant de se battre, il fait la grève. Achille crée le malheur de son propre peuple, c'est-à-dire des Grecs qui vont se faire massacrer par les Troyens pendant tout le temps que dure cette grève d'Achille. Donc, on a un héros entièrement positif, Hector, et on a un héros qui est double, qui est le meilleur des Achéens. Sans Achille, les Grecs ne peuvent pas gagner, mais il crée le malheur de son propre peuple. Alors, il va le créer en faisant la grève, en refusant de se battre, et il va le créer aussi après à sa mort. et la mort d'Achille. Alors ça, c'est pas dans l'Iliade, c'est dans l'Odyssée qu'on en parle. Même les muses sont venues pleurer la mort d'Achille pendant ses funérailles, ce qui est extraordinaire quand même. Les muses, ce sont les muses qui font vivre quelqu'un de manière éternelle par les poèmes. Et là, les muses sont venues pleurer pendant 17 jours. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Et donc on a deux héros, on a deux figures qui sont contradictoires. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que Homère ou ceux qui se sont fait appeler Homère, ceux qui se sont réclamés d'un grand poète Homère, qu'il ait existé ou pas, ça on ne saura jamais, ont décidé que pour arriver à la mort d'Hector, c'est-à-dire pour arriver à la chute probable de Troie, enfin nécessaire de Troie plutôt, il fallait passer par les états d'âme, les sentiments, les contradictions d'un héros dont le nom veut dire la contradiction. Il est le meilleur des Achéens, Achilleus, Achaioi. Il est aussi le deuil des Achéens. Et ça, c'est quelque chose de... Donc, c'est tout à fait paradoxal. Et on va passer par d'abord des défaites des Achéens, des crises gigantesques. Et Achille, pendant la plupart du temps du poème de l'Iliade, mais que Homère n'a pas appelé l'Achilléide, le poème d'Achille. Il a appelé ça l'Iliade, le poème d'Ilion. C'est le poème qui explique la guerre de Troie. Et pourquoi la guerre de Troie, qui est un événement mondial, qui pour l'histoire universelle est capitale, parce que c'est avec la guerre de Troie et la fin de cette ville, et ensuite le retour catastrophique des Grecs, que est signée par les dieux la fin d'un âge de l'humanité, l'âge des demi-dieux. Achille est un demi-dieu, et après, il n'y en aura plus jamais. C'est-à-dire que les dieux et les déesses ne vont plus jamais coucher avec les mortels, c'est fini. Donc ce moment extraordinaire où les hommes, et les humains, étaient très proches des dieux. Iliade n'arrête pas de dire « Paris semblable aux dieux ». Ça, c'est fini. Cette époque-là, extraordinaire, c'est fini. Alors c'est fini par une crise, parce qu'il y a d'un côté ce héros, Achille, qui est contradictoire, qui fait la ruine de son propre peuple pendant un certain temps, avant d'apporter la victoire. Et Hector, qui lui est positif, que Zeus, c'est l'humain que Zeus préfère, mais que Zeus doit condamner, parce que Troie doit tomber. Donc vous êtes dans des contradictions énormes. C'est pour ça que l'Iliade, c'est un poème d'une force inouïe. C'est-à-dire que c'est pas simplement une belle histoire, l'histoire d'une période de l'humanité qui a fini. Non, on est dans une tension permanente. Pourquoi Achille se met-il en colère à ce point-là? Est-ce qu'il a raison ou pas? Et c'était fait pour qu'on en débatte. Donc ce sont les êtres ne peuvent pas être comme ça facilement saisis. Hector, oui, mais il est tellement positif que même Sauvin est un peu furieux quand même. Bon, il peut être très brutal, mais justement, c'est l'impossibilité. C'est celui qui ne peut pas vivre ce bonheur, cet âge d'or, comme il vit avec Andromaque. Andromaque aussi. Donc, qui est la femme, alors vous vous souvenez, il y a la scène avec Astyanax, le petit, leur enfant, qui a peur du casque d'Hector, etc. C'est tendre, alors c'est magnifique, parce que donc il pleure, donc on dit, elle, Andromaque, elle sourit en pleurant, enfin c'est très très beau, mais le nom Andromaque, ça veut dire celle qui combat les hommes. Alors qu'on pourrait croire qu'elle est douce, mais pas du tout, c'est le nom d'une Amazone, donc qui a été vaincue par Héraclès, etc. Et Andromaque, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement virile, parce qu'elle sait exactement, face à Hector, qui est l'homme viril, le guerrier, le meilleur guerrier troyen, elle sait ce que c'est que la guerre. Elle peut lui dire, elle peut lui renvoyer à la face. Elle lui dit, si tu vas te battre, tu vas mourir, parce qu'il est plus fort que toi, Achille, il va arriver ceci, ceci, ceci. Et donc elle prédit exactement tout ce qui va se passer. Et à un moment, elle donne un conseil militaire à Hector en disant, tu prétends défendre Troie, mais tu as bien vu, là, tel point, le rempart est plus bas, c'est là qu'ils vont attaquer, c'est là qu'ils vont passer. Et Hector lui dit, bon, toi, va trouver tes servantes et tu peux faire du tissage.
Oui, file la quenouille.
Comment?
Et elle dit, va à tes servantes avec ta quenouille, reprends ton fil.
Oh, voilà, c'est ça. Donc là, on
parce que la guerre, c'est une chose pour les hommes.
Discours très macho.
Oui, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup. Télémaque le fait aussi dans l'Odyssée avec sa maman. Donc, je veux dire. Mais puisque vous avez parlé d'Andromaque, En rappelant, on va rappeler que l'Iliade, ce n'est pas toute la guerre de Troie. Ce n'est pas les 10 ans de la guerre de Troie. C'est une dizaine de jours.
Non, c'est exactement 52 jours. Quoi. C'est parce que pendant plusieurs jours, ils ne font rien.
Voilà, c'est ça. Il y a des jours, il y a des jours où on ne fait rien. Mais, en effet. Mais puisque vous avez parlé d'Andromaque, ça nous permet de parler aussi des personnages que l'on retrouve ensuite dans la tragédie, comme par exemple Iphigénie. Comme Ulysse et surtout le cheval, vous avez parlé d'Andromaque et d'Astyanax. Ces gens-là, ces personnages-là, comment agissent-ils? Iphigénie, on n'en parle pas dans. Alors, c'est ça qui est mystérieux. Elle devrait être au centre de l'action et de la réflexion, et elle n'apparaît pas.
Non. Alors ça, c'est un mystère. Ça, on n'aura pas vraiment de réponse. On ne peut faire que des hypothèses. C'est que Homère n'en parle jamais. Alors que dans des poèmes qui sont contemporains, qui en tout cas ont été récités, écrits, réécrits en même temps qu'on s'intéressait et que l'Iliade était... L'Iliade et l'Odyssée sont devenus les textes de base. C'est-à-dire que les élèves, ils apprenaient le grec à partir d'Homère. Ce qui est quand même fou, parce que c'est pas du tout la langue qu'ils parlaient tous les jours. Quoi. Donc, et après, s'il y a une grammaire en grec, une linguistique, c'est pour comprendre Homère, que parfois on ne comprenait pas. Homère était la base. On apprenait que l'agriculture, c'était avec Hésiode, et on apprenait avec Homère le faire la guerre, etc. Or, Homère n'en parle pas. Alors, ou bien il l'ignorait, ou bien il ne veut pas en parler. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Plutôt tendance à dire que les auteurs, ils savent ce qu'ils font, ce qu'il faut. Pourquoi il n'en veut pas? Parce que Iphigénie, la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, c'est une fille qui a été sacrifiée donc, en Grèce, donc à Aulis, donc, là où la flotte grecque s'était rassemblée pour aller attaquer Troie, et où des vents contraires, ou une absence de vent faisait que la flotte ne pouvait pas partir. Et Artémis a exigé que Agamemnon tue sa fille. Et pourquoi? Parce que ce crétin, il est assez crétin en général, s'était vanté à Aulis, où il y a des bois sacrés d'Artémis, d'être meilleur chasseur qu'elle. Ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Et donc, pour méchante, elle a dit, ben, puisque tu fais ça, tu prétends meilleur que moi, et ben, offre-moi une proie, offre-moi une jeune bête, moi qui aime bien la chasse, ta fille. Alors bon, il hésite, alors il décide quand même de sacrifier sa fille. Alors après, c'est comme le sacrifice d'Abraham, enfin ça dépend des versions, ou bien la fille est tuée, ou bien elle n'est pas tuée, elle est changée, il y a une biche qui prend sa place, etc. Et donc, Homère n'en veut pas de ça. Alors après, toute l'histoire, c'est que Artémis prend Iphigénie, elle met Iphigénie en Crimée, et là, en Crimée, il y a un culte que, dans un temple d'Artémis, et Iphigénie a comme fonction d'égorger tous les Grecs qui passent par là. Bon, pour leur faire dire, vous avez voulu me tuer. Bon, arrive son frère, alors elle a failli égorger son frère, puis il y a la reconnaissance, et finalement, il se sauve avec la statue d'Artémis, et elle va à Broron, où il se trouve qu'il y a 2 mois, j'étais à Broron, que je ne connaissais pas, et j'ai vu le tombeau d'Iphigénie, et j'étais, je dois dire, très ému. Parce que c'est la toute petite grotte qui s'est effondrée, et pendant des siècles, les Grecs ont dit Iphigénie était là, parce qu'elle est à Broron, elle servait de prêtresse d'Artémis. Alors dans le guide, ils disent que c'est un cénotaphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le cadavre. Mais je veux dire, quand même, c'est très émouvant, elle était là. Bon. Donc ça, Homère ne veut surtout pas en entendre parler, parce que ça voudrait dire que Agamemnon a fait un acte incroyable, qui pour Homère, qui était un puritain en réalité. Lui, les dieux, ils ne sont pas si fous que ça chez lui. Et donc Agamemnon aurait fait un sacrifice humain, ce qui est impossible. Achille, lui, par contre, peut très bien tuer, pour mettre sur le bûcher de son grand ami Patrocle, donc il égorge 12 princes troyens. Alors ça, bon, parce que c'était une brute, mais ça d'ailleurs, Homère dit, il fait quelque chose qui n'est pas convenable. Donc au moins Homère juge. Mais donc que Agamemnon, le chef, soit quand même pris dans ce crime de tuer sa fille, même si c'est un sacrifice, crime qu'il va payer ensuite, parce que quand il va rentrer chez lui, après la guerre, sa femme Clytemnestre, quelqu'un que j'aime énormément, a eu 1000 fois raison de le massacrer, lui, parce qu'il avait tué... Il avait tué leur fille. Et d'ailleurs, dans Échille, qui raconte cette histoire, il y a un vers absolument extraordinaire où Clytemnestre a tué le grand vainqueur de Troie, le grand général Agamemnon, et le cœur lui dit « bah tu charries quand même ».
Et elle a cette phrase, elle a cette phrase magnifique, et ça, Homère n'aurait jamais pu l'écrire. Elle dit « Il a tué la douleur de mon accouchement ». Donc, c'est-à-dire ce qu'il y a de ce que j'ai de plus intime. Et ça, évidemment, Agamemnon, lui, il n'avait pas du tout compris, quoi. Lui, ce qu'il voulait, c'était envoyer la flotte contre Troie. Donc, on a des... c'est intéressant, avec les mêmes mythes, on voit que Homère, ensuite les tragiques, mais avant les tragiques, il y a eu d'autres, comme Stésichore, raconte l'histoire de points de vue complètement différents.
Mais est-ce que le sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon, ce n'est pas le premier exemple de raison d'État ?
Ah. Ben, sans doute que oui. C'est-à-dire que c'est un tel scandale. Parce que les Grecs, donc Homère n'en veut pas. Mais après, il y a tous les poètes, et très vite, après Homère, qui en parlent. Et donc, c'est effectivement, c'est de dire, avant, alors, scandale d'État, oui, parce que l'État, c'est quoi, dans ce cas-là ? Alors, puisque c'est pas vraiment un État, puisque, comme vous savez, les Grecs vivaient dispersés dans des centaines et des centaines de petites cités qui étaient normalement indépendantes les unes des autres, il n'y avait pas la Grèce. Bon, il y a eu des villes qui ensuite ont essayé d'avoir une hégémonie comme Sparte ou Athènes, etc. Mais donc les villes étaient indépendantes. Et la guerre de Troie, c'est la première et quasi unique expérience totale de toute la Grèce et qui prend un chef. Et dans l'Iliade, on dit, Ulysse dit bien, nous n'avons qu'un seul chef. Chez nous, c'est la monarchie. Il faut obéir à Agamemnon, pas comme a fait Achille. Et c'est vrai que si on admet l'histoire d'Iphigénie, dont Homère apparemment ne veut pas, c'est-à-dire que la première grande action grecque de toute la Grèce contre un ennemi extérieur, les Troyens, en Asie, s'appuie sur un crime. Même si ce crime, c'est une offrande à un dieu, à Artémis. Et après, on sait que même pendant la guerre contre les Perses, il y a eu un crime, comment dire, un sacrifice humain de la part des Athéniens. Donc, mais c'est pas dans les mœurs du tout. Ça se fait pas. On tue des bœufs, on tue des etc. Mais pas des êtres humains. Je veux dire, sauf alors ou des ennemis. Bon, Achille, il tue 12 princes troyens, pour lui, ça lui pose aucun problème. Mais je veux dire, tuer sa propre fille, non. Ça, c'est il faut avoir une malédiction pour ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant que et ça, c'est chez les tragiques, c'est que faire que la Grèce comme totalité gagne. Et gagne pourquoi ? Parce qu'elle a le devoir de faire la guerre aux Troyens, puisque les Troyens ont volé Hélène, plus une grosse partie de la richesse de Ménélas. Donc c'est justice. Troie est coupable du crime de Paris et aussi d'avoir accueilli Hélène qui vit à Troie. Troie est une ville coupable. Et comme dit Hésiode, le poète, si une ville a des rois qui sont des criminels, c'est toute la ville qui paye. Donc c'est bien une raison d'État au sens où et c'est vrai que Iphigénie, que Homère n'en a pas voulu, je pense pour cette raison-là. Il veut que ce soit sur le moment même, donc dans ce qui va se passer avec Achille versus Hector, il veut que ça soit net. Voilà.
Et parmi les choses dont Homère ne parle pas ou si peu, et il y a un chapitre qui m'a absolument passionné, c'est les morts d'Achille et d'Ajax. Ce sont des morts très différentes. Et est-ce que vous voyez dans ces morts des formes de revanche divine pour Achille ou l'état de folie pour Ajax ?
Alors, donc Achille est tué par Paris, une flèche de Paris. Alors, il faut savoir que l'arc tué avec une flèche, c'est comme les drones maintenant. C'est pas très noble parce que on tire de loin et donc c'est pour ça qu'un archer en général il se met derrière les gros guerriers qui eux sont en première ligne et qui vont vraiment affronter dans le combat de près comme on dit. Et donc déjà être un archer c'est pas terrible, mais il était très très habile. Alors le pire c'est que il y a plusieurs versions de la mort d'Achille, c'est que, alors ça c'est pas dans Homère du tout, qui a décidé de ne jamais raconter la mort d'Achille. Elle est annoncée tout le temps, et Achille sait qu'il va mourir juste après la mort d'Hector. Donc il n'y aura pas tous les épisodes, les Amazones, etc. Et Achille meurt lors d'un rendez-vous amoureux avec une Troyenne. Donc on lui a promis une Troyenne, une fille de Priam, Polyxène, Et là, donc, il se fait avoir. Donc, c'est Déiphobe, c'est un fils de Priam et Paris qui sont là, qui l'attendent dans un temple où il y aura le rendez-vous, et il le tue. Donc, c'est pas du tout une mort glorieuse. Alors, une fois, une jeune enfant m'avait demandé, mais oui, il est tué dans le talon d'Achille, c'est le talon gauche ou le talon droit? Il dit, normalement, bon, je ne sais pas, sans doute le talon droit, parce qu'il devait être position d'attaque quand même. Et cette histoire de Achille tué parce que sa mère l'avait plongé dans l'eau, mais en le tenant, c'est très très tardif ça, on n'a pas ça chez les Grecs. Donc normalement il est tué d'une flèche dans le mollet, et cette blessure normalement ne tue pas. Donc là il y a effectivement un acharnement divin. Et Ajax, lui, il est tué parce qu'après la mort d'Achille, c'est lui qui a récupéré le corps d'Achille, qui a dû le rapporter dans les lignes grecques. Et là, il y a eu des combats fabuleux, quoi, extraordinairement violents. Et là, il a bien fallu savoir à qui on allait donner les armes extraordinaires avec lesquelles Achille avait tué Hector. C'est des armes divines. Et les Grecs ont voté et ils les ont données à Ulysse et non pas à Ajax. Ajax est devenu fou furieux. Et donc, il a décidé de massacrer les chefs grecs. Et simplement, il était rendu encore plus fou qu'il ne le pensait, puisque Athéna a fait qu'il s'est jeté sur un troupeau de moutons au lieu de tuer les chefs grecs. Et quand Ajax a vu ça, il a eu tellement honte qu'il s'est suicidé. Donc, il est resté lui-même jusqu'au bout. Mais le nom d'Ajax, c'est un nom parlant, parce qu'un grec, dans Aias, il entend le cri « aïe, aïe ». Qui est un cri de douleur. C'est le cri que Ajax va pousser, disons, c'est sur toute sa vie qui finalement est détruite. Lui qui a été le deuxième meilleur des Achéens, après Achille qui était son ami. Alors là, c'est intéressant parce que cet Achille amoureux, bon, il l'était de Briseis, etc. Et Ajax qui reste lui-même, même au moment où il s'est rendu compte que les dieux l'ont berné, quoi, et que les Grecs aussi l'ont trahi, qui reste strictement lui-même. Ça veut dire que ces deux-là, qui sont les deux guerriers les plus forts, Achille, c'est l'attaque. Ajax, c'est le bouclier, c'est la défense. Quoi. Mais ils sont vraiment c'est les combattants de première ligne. Quoi. Eh bien, ce n'est pas avec ces guerriers-là qu'on peut prendre Troie. Pour prendre Troie, qui est fermée dans des remparts divins construits par les dieux, il faut un homme rusé. Et cet homme rusé, c'est Ulysse. C'est Ulysse qui va d'abord aller voler le palladium, c'est-à-dire la statue d'Athéna dans un temple d'Athéna à Troie. Et il y avait une prédiction disant, si vous ne volez pas, tant qu'il y aura cette statue d'Athéna dans Troie, Troie est imprenable. Donc Ulysse y va avec son copain Diomède, et ils reviennent avec la statue qui n'était pas très grande. Et là, Ulysse se dit, bon ben oui, je pourrais la garder pour moi, donc il veut tuer Diomède. Il y avait un clair de lune. Et Diomède l'a vu, et donc voilà. Donc Ulysse est vraiment le traître, quoi. C'est vraiment. Et donc Troie peut tomber. Et c'est grâce à la ruse du cheval inventée par Ulysse que Troie tombe. Alors ça, on peut faire un peu un lien avec l'Odyssée quand même, c'est-à-dire que la ruse du cheval, ça débouche sur un massacre absolument abominable. Ce qu'ont fait les Grecs pendant la prise de Troie, mais c'est une horreur. Et c'est une horreur non seulement dans le massacre de tout le monde. Bon, ça, les Grecs le faisaient, c'était pas du tout détendre. Même au 5e siècle, quand ils prenaient une ville, ils pouvaient massacrer tout le monde, enfin, tous les hommes, et prendre les femmes en esclavage. Là, c'est ce qu'ils font à Troie. Mais pire que tout, d'une certaine manière, il y a des sacrilèges. Le fils d'Achille, celui qu'il a eu alors qu'il était déguisé en fille, Néoptolème, Pyrrhus, il va égorger Priam sur l'autel de Zeus, ce qui ne se fait pas. Il y a un des Grecs, un autre Ajax, qui veut violer ou qui viole Cassandre dans le temple d'Athéna, ce qui est complètement dingue. Je veux dire, or, et les Grecs ne l'ont pas châtié. Et donc, c'est affreux, la prise de Troie. Et c'est pour ça que le retour des Grecs sera abominable, ce sera une grande tempête, beaucoup vont disparaître à cause de la colère d'Athéna. Justement. Et si Ulysse erre pendant toutes ces années au début, c'est la colère d'Athéna, alors qu'elle adorait Ulysse, c'est son protégé. Mais là, non, elle le laisse. Et ça, entre nous, pour moi, c'est un vrai mystère. J'en parlais avec des amis, justement. hellénistes, avec notamment François Lissarague, qui est mort, qui savait un génie, qui savait analyser les vases, tout ça. Donc, parce qu'on peut voir dans des banquets, on peut avoir une coupe qu'on buvait au 5e siècle dans un banquet, donc le dessin apparaissait une fois qu'on avait bu. Et c'est une scène abominable, alors très très bien dessinée, avec grand luxe. C'est le fils d'Achille en train d'égorger Priam sur l'autel de Zeus, ce qui est un crime absolu. Et il va le payer, puisqu'il va mourir ensuite, le fils d'Achille. Comment, dans un banquet, où on chantait de l'Homère, etc., on peut célébrer ça, on peut boire du vin dans une telle coupe? Ça, c'est un problème, c'est-à-dire que les Grecs se sont donnés comme mythe d'origine, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la guerre de Troie, c'est vraiment l'origine de la Grèce, ce n'est pas l'origine factuelle, bon, mais c'est ce qui fait que la Grèce est la Grèce, opposée à l'Asie, etc. Quelque chose qui est extraordinairement victorieux, extraordinaire avec toute la guerre de Troie, mais une monstruosité par rapport, donc une impiété radicale par rapport aux dieux. Et donc on se donne comme acte fondateur qui est ce moment-là, qui est à la fois la fin d'une époque, tous ces héros vont disparaître, il n'y aura plus jamais de demi-dieux, et en même temps c'est là que la Grèce s'affirme comme Grèce. Et donc, et le texte qui raconte ça, et le texte qui, qu'on va ressasser tout le temps. C'est un peu la même chose comme dans l'Odyssée, bon, pour anticiper. La fin de l'Odyssée est invraisemblable, c'est très court. Ulysse a massacré les 108 prétendants. Bon, c'est un massacre affreux, enfin bon, mais c'était des méchants. Bon. Les pères des prétendants se révoltent et veulent massacrer Ulysse. Donc là, on a une guerre civile. Zeus en a marre. Et Zeus dit, bon, on va arrêter tout ça. Donc, il envoie la foudre pour arrêter tout ça. Puis, il dit, surtout, toutes ces luttes, toutes ces haines, toutes ces colères, tous ces massacres, tout ça, on va faire en sorte qu'on les oublie.
On verse l'oubli, oui.
Ouais. Epilessis. Donc, c'est l'amnistie, amnésie. Plus personne ne pourra en parler, ce qui se faisait en Grèce aussi, quand il y a après des grandes crises. On va l'oublier. Donc, tout ce qui s'est passé à Ithaque, avec le retour d'Ulysse, ça disparaît. Or, l'Odyssée est là, c'est le contraire de l'oubli, puisque c'est la muse qui a raconté ça à Homère, muse fille de mémoire. C'est une contradiction. Là. Homère chante le chant, l'histoire, où Zeus finalement dit on va tout oublier, alors qu'on en a la mémoire extrêmement précise. C'est-à-dire toute la violence qu'il y a eu à Troie ou qu'il y a eu à Ithaque, ce qui est une fondation de certaine manière, refondation de la Grèce après le retour des Achéens, eh bien, ça va se faire dans l'absence totale de déni. C'est-à-dire qu'il faut connaître toutes les violences qui sont à l'origine même de ce qu'on célèbre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je trouve, par rapport à nous, nous avons tendance à avoir on veut des origines grandioses, pures, etc. Là, ce n'est pas le cas. Et par exemple, ce qui s'est passé à Troie, donc c'est une abomination, et on voit dans toute l'Iliade, ça c'est une chose qui m'a vraiment frappé, Zeus chérit Troie, mais sait que Troie doit disparaître. Eh bien, Zeus pleure deux fois. Il pleure autant pour les morts troyennes que pour les morts grecques. Pour elle, c'est strictement la même chose. Et dans l'Iliade, ça, on peut en parler, parce que c'est une violence inouïe. Moi, à traduire, j'en avais un peu marre de traduire ces massacres quand même. Bon, quand vous avez l'arme qui rentre avec une certaine température dans le crâne et qui sort plus chaude, bon, c'est sympa, mais bon, quand même. Je veux dire, donc, je pense, parce qu'il n'y a aucun refus de voir, c'est ça qui est frappant. On voit la violence, on va jusqu'au bout de la violence, à la fois psychique, physique, etc., sociale. Et à la fin, c'est une réconciliation. Donc, Achille, il y a une confrontation entre Achille et son ennemi, Priam, le père d'Hector. Achille a le corps d'Hector chez lui qu'il veut mutiler, mais il n'y arrive pas parce que les dieux le protègent. À côté du corps de son grand ami Patrocle, les deux corps sont là, côte à côte. Donc c'est l'homme que Achille a aimé par-dessus tout, Patrocle, et l'homme qu'il a détesté par-dessus tout, Hector, qui a tué Patrocle. Eh bien, Priam, envoyé par les dieux, va chercher le corps de son fils Hector, que Achille ne voulait pas rendre. Et Zeus lui fait savoir qu'il doit le rendre. Et les deux, le père d'Hector et Achille, donc le meurtrier Achille et le père de l'homme qui a été tué, Hector, se retrouvent et ils s'admirent. Et il y a une tendresse énorme entre l'un et l'autre, ce qui est tout à fait surprenant. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu la même douleur. Ils ont vécu exactement la même chose. Ils ont fait la même guerre, d'une certaine manière. La mort d'Hector et la mort de Patrocle, c'est la même chose. Et donc, c'est ça qui fait que donc, c'est dans ce partage qu'il y a une reconnaissance. Donc, on est au-delà de tous les codes sociaux, codes d'honneur, morale, théologie, etc. On est dans l'expérience de cette égalité, identité de douleur. C'est pour ça que Achilleos, donc l'homme, la douleur du peuple, c'est de son peuple, c'est aussi la douleur de l'autre. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire.
Alors, on va terminer cet échange avec ce que vous avez ensuite donné à France Inter, avec donc Ulysse, le retour d'Ulysse, qui est complètement différent. Autant il y avait très peu de femmes dans l'Iliade, autant les femmes sont omniprésentes dans l'Odyssée.
Oui, Ulysse aime bien, oui.
Ah oui, Ulysse en profite, oui, en effet. Comment voyez-vous, vous, l'articulation entre ces deux poèmes aussi différents?
Alors d'abord, il y aura donc un quatrième tome, la pub, là, quand même, qui va sortir normalement en septembre. Donc, alors, c'est lié à la sortie du film de Christopher Nolan, film que personne n'a vu, mais bon, qui peut être très, très bien, vu ce qu'il a fait avant. Ça, j'en sais rien, mais... Alors, justement, c'est tout le problème, parce que souvent, on a dit, l'Iliade, c'est archaïque, c'est l'honneur, c'est le destin, ce sont des êtres qui ne sont pas libres du tout, etc. Ulysse, c'est un héros moderne qui se débrouille presque tout seul, donc c'est un individu autonome, technicien, il trouve des solutions, etc. Donc, on a voulu voir une rupture d'âge, alors que pour les Grecs, pas du tout. Simplement, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que l'Iliade, c'est une action complète, finie, qui se passe dans un passé qui ne reviendra plus jamais. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'aura plus jamais lieu. La preuve, c'est que Troie n'existe plus. Donc c'est la fin d'un monde complet qui est... Bon, maintenant, on vit autrement. Alors que l'Odyssée, c'est le passage de celui qui a vaincu Troie, ce qui n'est pas Achille, ce qui est Ulysse, avec sa ruse, son cheval... C'est le retour au présent, de telle manière. Donc, comment on quitte ce monde héroïque des demi-dieux? Ulysse n'est pas un demi-dieu, justement. On revient dans le monde contemporain, qui est le monde donc, où on récite de l'Homère, et qui est le monde répétitif, le monde où on est paysan. Alors, Ulysse, il a une petite île, Ithaque, qui n'est pas terrible, hein, c'est pas très grand, c'est pas riche. Il n'y a même pas la place de faire un stade pour des courses de chars, donc c'est ce que dit Télémaque. Donc par rapport à d'autres lieux, c'est par exemple là où il y a Ménélas qui habite, ou Nestor, là c'est riche, etc. Sauf qu'il pleure tout le temps, mais bon. Et donc c'est comment on arrive dans le monde de maintenant. Alors que le monde de maintenant, dans l'Iliade, on l'a, par exemple, sur le bouclier d'Achille. Ça, c'est quand même frappant, qui ne correspond pas au monde des héros iliadiques. C'est quand même... l'Iliade n'est pas naïve. C'est très bien qu'on parle d'un temps qui n'est pas maintenant. Et le maintenant est toujours en contrepoint de ce qu'on raconte dans l'Iliade. Mais le maintenant n'est presque jamais dit. Tandis que là, c'est le monde que Ulysse veut retrouver. Et il passe par des lieux complètement hors du monde, imprévus. Donc, avec les fameux voyages d'Ulysse, ces errances, à cause d'une tempête qui est due au fait que les Grecs ont été des massacreurs à Troie, ce qui n'aurait pas dû être. Et donc là, il est largué dans un monde inconnu. Alors, il découvre, alors ça c'est extraordinaire, chaque île, c'est comme si c'était un petit monde qui vaut par lui-même, comme si c'était l'ensemble du monde résumé dans une chose. Alors, par exemple, le Cyclope, bon, moi j'aime bien dire, ce sont des écolos, anarchistes, donc ils ont une petite culture, etc. Ils n'ont pas d'État, etc. Mais ils sont aussi anthropophages, ce ne sont pas tous les écolos quand même, parce qu'étant vegan, ils ne peuvent pas être anthropophages. Donc c'est une société archaïque, un petit âge d'or. À côté, vous avez le pays de Nausicaa. Donc avant, ils étaient cousins, d'ailleurs. Enfin, ils étaient très liés. Ils étaient même très proches. Puis les Phéaciens, donc c'est les Phéaciens, pays de Nausicaa. Là, c'est la très haute technologie. C'est-à-dire qu'ils savent, ils ont des bateaux qui sont conduits, c'est l'intelligence artificielle, quoi, qui se conduisent tout seuls. Ils ont des automates, donc ça fait par Héphaïstos. Ils ont un palais magnifique du roi, c'est à la fois la lumière du soleil et la lumière de la lune. Ils ont un jardin, c'est les arbres de toutes les saisons. Donc ils sont un peu arrogants, ils sont comme les cyclopes, les étrangers, ils n'aiment pas trop, mais ils peuvent les conduire, ce qu'ils ont fait. avec Ulysse. Mais frappant, les bateaux des Phéaciens, ces bateaux extraordinaires, ne sont jamais allés jusqu'à Troie. C'est-à-dire qu'ils sont restés confinés. Ils ne sont pas allés à Troie, et parce que c'est à Troie que se passait la vraie histoire mondiale. Ils sont hors histoire, d'une certaine manière. Et ensuite, alors là, on a eu un peu ce débat, donc il y a une malédiction. Ils disparaissent. Enfin, dans l'Odyssée, on ne sait pas bien, il y a un mystère. Ils sont où changés en pierre, on ne sait pas. Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors après, les anciens disaient, oui, mais l'île des Phéaciens, c'est Corfou, Corcyre. Bon, effectivement, ça, on n'en sait rien. Mais je veux dire, donc Circé, par exemple, c'est à l'extrême est, c'est la sorcière qui, à la fois, elle peut changer Ulysse en porc, ou en sanglier, d'ailleurs, un ami m'a dit, mais en Osuker, ça peut être un sanglier. Puis après, comme ça ne marche pas, elle peut le châtrer, quand ça ne marche pas non plus. Puis du coup, elle couche avec lui, et bon, ils sont amants. Mais elle est en même temps très bénéfique, puisque c'est elle qui dit à Ulysse comment il pourra rentrer chez lui. Il faut d'abord qu'il passe par les enfers. Ça, il n'est pas content. Et donc, le Circé, c'est aussi, elle est borderline, au sens où elle connaît toutes les extrémités, et elle joue avec. Donc, on peut être chez elle cochon ou grand héros, aimé ou châtré, etc. Elle connaît toutes les contradictions. Et d'ailleurs, pour la vaincre, à un moment, les dieux ont pitié d'Ulysse parce qu'il va aller se faire transformer en cochon. Il lui donne une plante qui s'appelle le molu, qui veut dire c'est une plante qui ramollit. Alors, pourtant, il y a une thématique sexuelle, mais bon, c'est pas ça. Ça veut dire ça ramollit les maléfices de Circé. C'est une plante que les hommes ne connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas la tirer de terre, c'est trop dur. Il n'y a qu'un dieu qui peut, et donc la tige et la fleur est blanche et la racine est noire. C'est l'image du monde, évidemment. C'est l'image, la lumière céleste et la noirceur de la terre, mais bien séparées. Et donc c'est avec cette plante que Ulysse peut arrêter celle qui confond tout, justement. Là, c'est moi, on m'a donné cette plante où le noir et le blanc, c'est-à-dire le céleste et le terrien, sont vraiment distingués. Et donc, c'est grâce à ça que Ulysse peut échapper au maléfique de Circé, qui lui préparait un bouillon bizarre, d'ailleurs, où tout est mélangé, tout ça. Et donc, l'Odyssée, on passe, c'est comment pour arriver au présent. On ne s'est pas fait de manière naïve. C'est pas parce que le présent, comment il faut travailler sa terre avec les saisons, ça, Homer, il s'en fiche complètement. Ça, c'est son collègue et ennemi, si on peut dire, Hésiode. Lui, non, c'est comment on passe de Troie, donc avec la gloire immense d'avoir pris Troie, au monde normal. Et pour ça, il faut passer par des mondes qui, chaque fois, sont comme une vignette ou comme une petite totalité qui disent, en gros, comment est fait notre monde, mais notre monde, il est fait de tout ça. Il y a des Circé, il y a des Calypso. Calypso, c'est la mort, hein, celle qui cache à l'extrême ouest. Il y a tout ce qu'on voit dans ces îles se retrouve d'une certaine manière, mais à Ithaque. Et donc Ulysse, c'est ce qu'il apprend d'une certaine manière. C'est comment le monde contemporain, celui que Ulysse va finalement rejoindre, est un monde tout à fait hétérogène, fait de réalités différentes. Et là où je trouve que l'Odyssée est magnifique, par rapport à des poètes qui seraient plus dans la sagesse, dans l'ordre, etc., c'est dire, vous avez le réel, c'est extraordinairement complexe. Vous pouvez le voir comme des cyclopes ou comme les Phéaciens, vous pouvez le voir comme les lotophages, ça c'est la drogue, qui fait que le lotos, alors c'est la plante qu'on mange ces gens-là, c'est dans le sud, hein, c'est en Afrique. On ne sait pas ce que c'est comme plante. Mais alors Homer fait des jeux de mots, il rapproche lotos de l'été, l'oubli, dans le même vers. Donc c'est la plante de l'oubli. Et donc ça, c'est-à-dire on pourrait prendre ça. Ou les sirènes, c'est extraordinaire les sirènes. Ce sont des filles d'une muse. Mais ce sont des mauvaises muses. Et qu'est-ce qu'elles chantent? Elles disent à Ulysse, si tu veux, je peux te chanter l'Iliade. Mais parce qu'on connaît tout. Je peux chanter toute ta gloire de toi. Bon, enfin, toute la guerre de Troie, je peux te chanter ça. Et tout ce qui s'est passé dans le monde, je peux te le chanter. Mais avec une voix, c'est tellement exceptionnel comme voix. C'est comme si le monde devenait d'une beauté absolue dans un chant qui dit tout. Qu'on est transporté, parce que c'est un cœur qui s'est chanté de manière extraordinaire. Et du coup, on perd sa propre chair. On perce le fait qu'on est là. Il veut rentrer chez lui. Et donc, l'île est jonchée de dunes de cadavres en train de pourrir. c'est quand même magnifique de dire que le chant peut donner ça, alors qu'elles sont filles d'une muse. Et la muse, ce qu'elle doit faire, justement, et ce que doit faire Homère en répétant ce que dit la muse, c'est de ne pas faire comme les sirènes, c'est-à-dire c'est de ne pas, pas donner une drogue qui fait qu'on oublie tout. C'est ça qui est... Donc, il y a dans la musique ce danger d'être complètement hors du monde. Il s'agit de chanter comment on revient dans le monde.
Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de cet échange.
J'ai parlé beaucoup, peut-être.
Mais non, et vous êtes là pour ça. Hein, c'est pas moi de parler, c'est à vous. Hein.
Non, mais je réponds alors, à des questions.
On pourrait certainement... D'ailleurs, on vous reverra peut-être dans quelques temps, puisque si le troisième tome est annoncé, eh bien, j'espère bien qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous pouvez applaudir.